âme saine dans un corps sain.
Du côté de chez soi, à lire et
je crois que se réaliser soi-même, c'est d'abord se percevoir soi-même comme un réservoir de possibilités, d'aptitudes, de capacités, de ressources, de désirs, de motivations. Donc je suis, Heidegger le disait très bien d'ailleurs, il disait « je suis une promesse de possibilités ». Et Valérie disait quelque chose d'assez semblable quand il prononçait la phrase suivante « le plus vrai d'un individu, c'est son possible ». Donc, se réaliser, c'est d'abord ça, c'est me percevoir moi-même comme une réserve de possibilités. Et en second lieu, parce que je pense qu'il y a un deuxième volet, me réaliser, c'est, à partir de ces possibilités, me dire que je suis en quelque sorte soumis à l'obligation de les mettre en acte, de les actualiser, de les faire passer du virtuel à la réalité effective. Et donc de devenir, comme disait Nietzsche, d'une certaine manière, de devenir ce que je suis en puissance. Et donc je pense que c'est ça, la réalisation de soi. C'est d'abord une perception de soi comme une réserve de possibilités, comme on dit de nos jours dans le développement personnel, comme étant possesseur d'un potentiel, et en second lieu, comme ayant finalement à utiliser ce potentiel au mieux dans mon existence pour faire quelque chose de lui et ne pas le laisser en friche, en quelque sorte.
Et nous pouvons ajouter à ce que vient de nous dire le philosophe Michel Lacroix que certains d'entre nous éprouvons une peur de laisser notre potentiel en friche, la peur de ne jamais devenir ce que nous sommes en puissance, la peur de ne jamais exprimer notre moi véritable, la peur de rater sa vie à l'heure d'Internet et du culte de la célébrité, la peur de vivre une existence insignifiante alors que nous sommes bombardés d'injonctions qui nous ordonnent de nous dépasser, qui affirment que nous pouvons réaliser tout ce que nous voulons. Bref, que nous sommes maîtres et possesseurs d'une liberté illimitée qui nous permettrait d'exprimer toutes nos potentialités. Notre invité, le philosophe et psychanalyste Carlo Strenger, pourfend cette idéologie du « tu peux tout faire car tu le veux » dans un bel essai qui vient de sortir en librairie. Bonjour à tous, bonjour Carlo Strenger.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Assez bien à ce point-là.
Alors vous êtes philosophe, psychanalyste, professeur de psychologie à l'université de Tel Aviv, membre du séminaire de psychanalyse existentielle de Zurich, et vous venez donc de publier votre premier ouvrage, publié en français, « La peur de l'insignifiance nous rend fous », sous-titré « Une quête de sens et de liberté pour le XXIe siècle ». Et c'est publié chez Belfond. Avec nous également le philosophe Jean Salem. Bonjour Jean Salem.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va également.
Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne et qui nous conseillera une thérapeutique philosophique au malaise de civilisation que vous diagnostiquez, Carlo Strenger, dans votre livre. En l'occurrence, une bonne potion d'épicurisme pour soigner cette peur de l'insignifiance qui nous rendrait tous fous. Et bonjour également à notre amie Cécile Guéret.
Bonjour.
Journaliste à Psychologie Magazine. Nous vous retrouverons à la fin de l'émission. Vous avez apporté un nouvel ouvrage à notre petite bibliothèque. Mais comme vous êtes très sensible aux thèses défendues par Carlo Strenger, je sens qu'une ou deux questions vont surgir de votre brillant cerveau. À tout à l'heure.
Avec plaisir.
Alors Carlo Strenger, j'ai titré cette émission « La peur de rater sa vie à l'heure d'Internet et du culte de la célébrité ». J'aurais pu ajouter « à l'heure du fameux slogan publicitaire « Just do it », littéralement « tu peux le faire », ce slogan qui promet le culte de la liberté illimitée, un culte qui empoisonne selon vous nos existences. Le champ des possibles n'a jamais été aussi vaste, quasiment illimité. Et pourtant, dans votre cabinet de psychanalyste à Tel Aviv, vous n'avez jamais autant reçu de patients déprimés qui ploient sous le poids de leur propre insignifiance avec cette sensation de passer à côté de leur vie.
Oui, disons comme ça, la peur de l'insignifiance, elle n'est pas née maintenant dans l'âge de la globalisation. Je voudrais en avance que vous m'excusez, je vais bégayer par-ci par-là parce que mon français est assez rouillé, je ne l'emploie pas depuis un bon dans les derniers 30 ans, mais on va voir comment je m'arrange. Cette peur, je pense qu'elle est, nous savons aujourd'hui qu'elle est née plus ou moins le moment où l'humanité a découvert le fait que nous allons tous mourir. Et depuis là, nous sommes tous préoccupés de ne pas disparaître de ce monde sans avoir laissé une trace de telle sorte ou l'autre. Le problème est que nous vivons dans un temps où les cadres qui définit ce qui est signifiant et ce qui n'est pas signifiant, se sont explosés. Si un héros grec, dans le temps de l'Iliade, savait qu'il voulait que les Grecs chantent de lui pour des générations, si Rembrandt pensait quand même que si on parle de lui en Hollande, alors il a achevé quelque chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où nous sommes tous conscients du fait que nous sommes liés par un réseau global. Et nous sommes liés plus ou moins à tout le monde. Et puis, la question, est-ce que je vis une vie qui est signifiante ou pas, devient beaucoup plus difficile à répondre. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont accompli beaucoup, soit dans le domaine des arts, du business, dans l'académie, mais qui se demandent constamment, est-ce que j'ai fait assez? C'est-à-dire, c'est aussi bien une question qui fait mal. Est-ce que ma vie a de la valeur? Et c'est aussi tout le temps, je dirais, un sens de culpabilité. J'ai pas fait assez. Parce que si c'est vrai que just do it, c'est-à-dire si tu essaies vraiment suffisamment, si tu fais l'effort, encore plus l'effort, si tu connectes à ton moi profond qui est illimité, alors... Si Sergey Brin et Larry Page ont pu changer le monde à l'âge de 30 ans...
Les fondateurs de Google.
Si Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, l'a changé à l'âge de 25. Si Rafael Nadal a gagné 12 Grand Slam à l'âge de 27. Comment ça se fait que moi, je suis qu'un mortel absolument ordinaire?
Comment est né ce besoin d'écrire ce livre? J'ai l'impression qu'il est né d'une saine colère.
Premièrement, je ne veux pas du tout donner l'impression que j'écris de la position du sage qui est au-delà de toutes ces forces qui nous impactent, nous tous. C'était un mal que j'ai exprimé, que je connais moi-même. Tu écris ton cinquième livre, ton sixième livre, tu as traité beaucoup de patients, tu as enseigné des milliers d'étudiants, et tu te demandes, mais est-ce que j'ai fait quelque chose? Et puis, quand j'ai vu de plus en plus chez mes clients et mes patients cette même malaise, et que je le voyais aussi, je voyage quand même pas mal et je parle, j'ai commencé à voir que ce sujet, cette peur, n'est pas limitée à une culture spécifique, mais où que j'atterrisse dans le globe, c'est la même chose que les gens se demandent.
Jean Salem, philosophe, grand spécialiste des philosophies de l'Antiquité, est-ce que vous comprenez cette peur de l'insignifiance dont parle Carlo Strenger?
Je crois quand même que, pour politiser un peu le débat, comme on disait en 1968, vous décrivez, somme toute, des symptômes de crise. Dans toute l'histoire humaine, les crises se traduisent par des symptômes analogues. Résurgence des vieilles religions qu'on croyait disparues, pullulement des sectes folkloriques qui viennent on ne sait d'où, interrogation sur le destin de ce qu'on appelle l'art contemporain, l'impression que tout a été dit et une culture de conférenciers qui se mord la queue, qui se cite sans cesse et qui cultive la micro-spécialisationnite. Et quoi encore? Et puis ce qu'on appelle dans les manuels d'histoire pudiquement le relâchement des mœurs, c'est-à-dire l'atomisation, les séparations des couples ou des familles qui deviennent des sports nationaux et internationaux. Bref, je crois que c'est dans ce contexte que vous trouvez, chez des gens qui ont tout de même les moyens, on parle des couches moyennes finalement dans votre livre, surtout si vous me permettez, vous trouvez des tas de gens qui font beaucoup de choses, qui peuvent voyager facilement, qui peuvent accumuler des data, j'ai fait ça, faire des grands CV, et qui n'ont absolument pas de fil rouge, de Lebensplan, de constance, de choses prévues à l'avance. À 15 ans, je voulais faire ça, et 30 ans après, je vois que j'ai fait à peu près ce que je voulais.
Alors, Carlo Strenger, comme le fait remarquer Pascal Bruckner dans la préface de votre essai, nous sommes désormais plus que jamais obsédés par la richesse et la célébrité, plutôt que de rechercher ce que les philosophes de l'Antiquité appelaient la vie bonne ou la vie juste. Nous recherchons une cotation à la bourse globale du mois, cette bourse qui décide de la célébrité, de la valeur, de l'obscurité ou de l'insignifiance de chacun. Cette bourse globale du mois qui serait une version radicalisée de l'éthique protestante du travail. Le problème, Carlo Strenger, est que cette cote de cette bourse globale du mois est très ondoyante, elle est très insécurisante.
Elle est énormément insécurisante. Si ceux qui ne sont pas suffisamment cotés pensent que si leur commodité, le prix de leur commodité va monter, ils vont enfin se sentir un peu plus accompli, plus calme, et puis ils vont découvrir qu'une fois qu'ils sont là, le vide ne se remplit pas. Et à part ça, il y a la peur de perdre la valeur qu'on a eue. Et là aussi, je pense qu'il y a quand même une raison complètement objective pourquoi nous sommes arrivés à cette obsession de la quantification de qui nous sommes. Parce que si avant, quand même, il y avait des cadres culturels qui étaient assez nettement définis, et c'était clair quelle était la vie bonne, la vie qui fait du sens, maintenant que nous sommes conscients de cet horizon énorme de possibilités, notre culture est en train de chercher quelque chose de soi-disant objectif que nous pouvons que saisir. Et qu'y a-t-il de plus objectif que les chiffres?
Et oui, alors vous appelez cet homme coté ou non à la bourse globale du mois, homo globalis, et c'est cette bourse globale du mois qui marchandise les êtres humains. Mais quels sont les facteurs qui permettent de classer les individus?
Oh, il y a toutes sortes de classements.
Le nombre d'amis sur Facebook, par exemple, le nombre de résultats sur Google. D'ailleurs, qui ne s'est jamais googlisé nous envoie son témoignage sur la page de Du Côté de Chez Soi, sur franceculture.fr.
Mais comme vous avez dit avant, à ce point-là, ça commence à un âge assez tôt. Tu entends les gamins qui comparent le nombre d'amis, en guillemets, qu'ils ont à Facebook. Et chez nous, dans l'académie, on était une fois, nous pensions que nous avons une valeur. Ce qu'on fait, ça a une valeur intrinsèque. Aujourd'hui, on nous mesure par combien de citations il y a pour nos articles et pour nos livres. Il y a même des programmes d'ordinateur qui calculent votre valeur, ma valeur, et la met dans un chiffre à la fin. Et nous avons développé une obsession. Vous avez la liste des plus riches de Forbes, des plus influentiels, des plus sexy, des plus connus. Et puis chaque ville a ses listes à soi. Chaque pays a ses listes. Et je pense qu'encore une fois, la question que je m'étais demandé, pourquoi cette obsession s'est développée? Et je pense que c'est vraiment cette peine de pouvoir, ce besoin, ce désir d'avoir quelque chose de vraiment objectif, je mets ça en guillemets, qui peut dire, j'ai accompli quelque chose qu'on peut au moins compter.
Carlo Strenger, nous vivons, selon vous, dans une période que vous qualifiez d'ère du veau d'or. Cette ère du veau d'or porterait un coup fatal à notre société héritière des Lumières du XVIIIe siècle. Tout ce qui compte vraiment doit pouvoir se mesurer de façon économique. Même la haute culture semble contaminée. On vient de l'entendre avec ce concert donné par trois monstres sacrés de l'opéra, les trois ténors, José Carrera, Placido Domingo et Luciano Pavarotti. Et ce concert des trois ténors marquerait pour vous un tournant dans les années 1990.
Oui, écoutez, si pour commencer, il y a quelque chose, un fait très très triste, c'est que environ une fois par mois, vous pouvez lire qu'il y a un autre orchestre symphonique qui est fermé. Nous ne sommes plus capables à financer la musique classique de la façon dont elle était financée avant. Il ne faut pas idéaliser ça. Nous savons tous très bien, c'est la raison que ça existait, c'était qu'il y avait une haute bourgeoisie dans le 19e siècle qui était prêt de mettre pas mal d'argent pour qu'ils aient un opéra spécial, un orchestre symphonique. Et depuis là, ce que nous avons vu, c'est vraiment des gimmicks de marketing comme les trois ténors. Personnellement, j'ai adoré aussi bien Domingo, aussi bien Pavarotti, qui est mort il y a, je pense, 2 ans, et Carreras, mais ce spectacle de ces trois ténors était, de mon avis, c'était du soft porn, c'était la catastrophe complète.
C'est-à-dire qu'avant l'ère du Vaudor, les œuvres d'art, les compositions musicales, les livres et les idées n'étaient pas jugées en fonction du nombre de personnes qui les avaient vues, écoutées ou lues, et que cette quantification de la haute culture, elle a été progressivement étendue aux individus. Vous faites un lien entre les deux.
Il y a un lien entre les deux qui en partie psychologique et en partie il est, je dirais, objectif. Psychologiquement, dans le sens que nous nous demandons est-ce que j'ai fait assez, est-ce que ce que j'ai fait a de la signification, et en partie quand même c'est devenu une question tout à fait pratique. Nos jeunes collègues qui veulent avoir un job à la fac, s'ils sont pas suffisamment cités, ils ne l'auront pas. Si vous n'avez pas suffisamment de spectateurs pour votre émission, you'll be out of a job, comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire, là, les forces objectives économiques et l'impact psychologique se lient dans un lien qui est assez brutal.
Alors, au firmament de cette bourse globale du mois que vous décrivez dans votre ouvrage, nous pouvons retrouver les fondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, feu de Steve Jobs, ou encore l'impératrice de la télévision américaine, Oprah Winfrey. D'ailleurs, Larry Page et Sergey Brin sont deux sorciers qui ont notamment permis d'accéder à nous tous au nombre de résultats de chacun sur Google. Alors, quelle est l'influence de cette bourse globale du mois sur nos psychismes ?
Encore une fois, du moment que nous n'avons pas un set de valeurs que nous connaissons aussi bien de la philosophie classique européenne et aussi d'autres traditions, nous vivons dans une instabilité qui est très très difficile à survivre. Et je pense que ça, c'est vraiment un des grands problèmes. Il m'est important de rendre clair que je ne vois pas quelque chose de le système de l'Internet comme la création diabolique de l'enfer. Google est un outil absolument incroyable pour moi. Moi je suis, j'aime pas bouger, certainement pas quand je fais la recherche. Alors aujourd'hui, je suis avec les jambes sur la table et j'ai accès plus ou moins à toutes les informations que je veux. Mais je pense qu'il y a besoin, il faut beaucoup de discipline interne pour que ce système nous sert et que pour que ce ne soit pas que nous devenons des esclaves du système.
Carlos Stringer, nous sommes tout de même confrontés tous les jours devant nos écrans à des gens qui semblent totalement maîtres de leur destin. Et si nous comparons leur destin exceptionnel à nos propres vies, nous éprouvons parfois de l'anxiété, une certaine tristesse, voire de la dépression. Et puis, il ne suffit pas de regarder si haut pour trouver que nous vivons parfois une vie insignifiante.
Oui, ce qui est certainement devenu un problème objectif, c'est du moment qu'il y a un réseau médiatique qui est global, il a besoin de célébrités globales. Premièrement pour la publicité, mais aussi quand même pour qu'il y ait un certain minimum de cohérence de chaque société avec des noms que nous connaissons en commun. Normalement, ce n'est pas nécessairement Épicure ou Démocrite, c'est plutôt vraiment Raphaël Nadal ou Brad Pitt, Angelina Jolie et peut-être Steve Jobs. Et ce qui est vrai, c'est que comme nous sommes inondés avec toutes ces histoires de succès qui sont vraiment incroyables, une des choses, c'est des histoires de succès qui n'étaient pas possibles avant ces technologies. C'était impossible de changer le monde à l'âge de 27. Et je pense que Larry Page et Sergey Brin ont vraiment changé le monde. et de façon très positive, comme je le vois. À ce qui concerne Facebook, j'en suis un peu moins sûr, mais ce n'est pas à moi de donner les notes de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est certainement, ça devient même plus difficile de lutter la peur de l'insignifiance en étant confronté de ces histoires de succès qui, en partie, sont quand même assez objectifs.
Alors, revenons sur ce slogan publicitaire né en 1988 et qui a, selon vous, fait tant de mal, du moins les valeurs véhiculées par ce slogan, « Just do it ». Je traduis littéralement « Tu peux le faire ». Tu peux le faire car ta liberté est illimitée. C'est une formule qui permet d'opérer une sorte de transformation magique de soi avec cette croyance que l'on peut façonner son destin en toute liberté et sans contrainte.
Oui, il est très important de je ne pense pas que ce soit la faute de Nike que notre culture a pris le tour qu'elle a pris.
Le slogan de Just Do It est quand même un leitmotiv dans votre ouvrage.
Oui, mais je pense que ce qui c'est Nike, c'était par pure chance.
C'est un symbole de l'époque.
C'est devenu un symbole de l'époque. Je pense que c'est fascinant de voir les vidéoclips qu'ils ont fait là-dessus, surtout avec Michael Jordan, l'immortel Michael Jordan. Et ils sont très, très bien faits parce que c'est Spike Lee qui les a dirigés. Il est un génie. Et dans un certain sens, ce qui est tellement absurde, c'est qu'il y a quelques-uns de ces textes, aussi de l'iconographie, qui sont très humanistes. Il y a un clip extraordinaire où on voit des jeunes gens qui viennent des slams ou quelque part aux États-Unis. Ils ont tous le regard de la défiance. Et puis il y a ce texte merveilleux que Michael Jordan dit avec sa voix extraordinaire qui dit plus ou moins « Je vais devenir qui je suis. » C'est du Nietzsche craché. C'est la psychologie humaniste crachée. Il y a seulement un tout petit problème. À la fin, il y a toujours le logo « Be legendary », soit une légende. Et là, c'est là que le mensonge commence, parce que je pense que c'est une très bonne idée que nous tous essayons de réaliser les possibilités qui nous sont intrinsèques, mais ça sera un sur un milliard qui sera Michael Jordan.
Carlos Strenger, cette incantation, ce slogan du « Just do it », « Tu peux le faire », nous dit que nous aussi, comme les héros de la mythologie grecque, nous pouvons laisser une trace dans notre existence, cette trace qui pourrait nous survivre. Il suffit de le vouloir pour le faire.
Oui, et là, je veux dire encore une fois, d'un côté, je pense que l'idée d'inspirer les jeunes, d'achever leur potentiel, je pense que c'est important. Mais je pense que la panique, elle commence du moment que nous mesurons ce que nous faisons, disons, avec l'histoire de Michael Jordan, qui, à propos, par hasard, c'est le chiffre de 1993, il était l'homme le plus connu du monde. Plus de gens connaissaient, savaient qui était Michael Jordan, disons en Chine, qui savaient qui était Bill Clinton, qui était le président des États-Unis. Et quand même, je suis assez sûr qu'en 10 ans, la plupart des jeunes ne sauront plus qui était Michael Jordan. Même aujourd'hui, une partie ne le savent déjà plus.
Je pense que l'époque voit se diffuser la starification. En même temps que tout un chacun apparaît et devient une sorte d'égo-star, en même temps, vous avez le processus qui est né avec le cinéma, les grandes stars hollywoodiennes, s'est diffusé dans le monde intellectuel, le monde politique, les architectes, les cuisiniers, les présentateurs. Aujourd'hui, nous avons une logique de starification qui traverse à peu près l'intégralité des champs de la culture. Et donc on a une logique un peu clivée entre le tout un chacun qui apparaît, qui raconte sa vie avec une webcam, etc. Et puis de l'autre côté, toute une culture qui vit à travers des stars, même si ce n'est plus les grandes stars des années 30, N'empêche que ce sont quand même des figures supérieures que les gens consomment à travers les journaux people, et qui veut dire que l'individu qui se revendique de plus en plus le maître de lui-même à la quête de sa propre authenticité, eh ben quand même, paradoxalement, il cherche à se retrouver dans des images emblématiques et qui lui servent de repères, des repères dans des domaines différents de l'existence sociale.
Le sociologue Gilles Lipovetsky, dans l'émission « Ce soir ou jamais » en 2008, Carlo Strenger, le culte de la célébrité, c'est l'un des effets pervers de ce slogan « Just do it », tu peux le faire car ta liberté est illimitée.
Oui, et peut-être quand même un autre paradoxe, chacun de nous projette le calme, l'existence qui se porte vraiment sur quelque chose. Et naturellement, les grandes célébrités, disons, du monde du film ou du rock, sont des figures de projection idéales, mais ce que nous savons tous très bien, c'est qu'une des grandes crises que ces grandes stars, ce qui leur arrive, c'est tu arrives au point où tu pensais que tu vas finalement exister fortement. Et puis ce que tu trouves, c'est moins de calme, plus de pression. C'est quelque chose que j'essaie toujours d'expliquer aux gens. Mais tu ne comprends pas. D'avoir le succès, c'est de travailler plus dur. C'est pas que tu y es arrivé, et c'est ça. Et comme nous savons tous, il y a beaucoup de grands stars, aussi bien dans le monde du film que dans le monde du rock, qui ont subi ou à l'addiction. Mais il y en a pas mal qui sont suicidés. Entre autres, parce que, je dirais, le désespoir, quand tu y arrives et le vide t'a accompagné, tu n'as plus pourquoi continuer.
Et la célébrité opère un processus magique où un simple mortel se métamorphose en demi-dieu. Et d'ailleurs, les programmes télévisés de télé-réalité permettent d'assister à cette métamorphose magique.
Absolument. Ce qui m'a tellement fasciné, c'était pourquoi partout dans le monde, ce genre de télévision est devenu si dominant. Et c'est exactement, si vous me permettez, la blasphémie. Nous voyons la transsubstantiation d'un ordinaire mortel, comme nous tous, en un demi-dieu. Peu importe que nous savons que c'est une illusion. Et on peut voir l'illusion parce que chaque épisode de la reality TV a aussi le mode d'exécution, tu es foutu dehors du programme. C'est-à-dire, nous jouons, même en nous-mêmes, entre la conscience du fait que les gens ne changent pas de mode ontologique ou métaphysiquement, et quand même, il y a une addiction à revoir et revoir et revoir ce processus magique.
Cécile Guéret, qui a beaucoup aimé votre ouvrage, une question. Cécile Guéret, notre collaboratrice de Psychologie Magazine.
Oui, je me demandais si ce discours du « just do it », c'est-à-dire « tu es capable de tout à condition que tu t'en donnes les moyens », n'était pas finalement une forme de coercition sociale, c'est-à-dire de museler tout discours contestataire en disant finalement « si toi, faible, tu n'as pas réussi à accéder à la richesse ou à la célébrité, c'est que tu n'as pas fait d'effort en fait ».
Oui, mais vous voyez, je ne crois pas dans les théories de complot de ce point de vue-là. Il n'y a pas. On cherche toujours who's the bad guy, qui est le mauvais. C'est comme si le directeur de Nike ou le directeur de la publicité de Nike, ah oui, nous allons maintenant manipuler le monde. Mais lui, le pauvre, il veut rester dans son job et il veut et pour ça il voit qu'il vend plus de sneakers. C'est vrai que les faits.
Mais c'est pas un symptôme. Mais justement.
Absolument. Mais je pense que le symptôme, encore une fois, et je pense que c'est ça ce qui est tellement difficile à accepter, est le résultat d'un développement technologique qui se passe dans tout le monde et dont nous n'avons pas encore développé les outils pour y vivre une existence qui est saine.
Il est déjà l'heure d'écouter le reportage de notre chère journaliste Sophie Bobert. Sophie Bobert a rencontré Milena, une jeune Parisienne qui a longtemps été une adepte forcenée des réseaux sociaux et qui un jour a décidé d'arrêter.
« Donc en fait, depuis le collège, j'ai toujours eu un ordinateur dans ma chambre. Et au début, c'était MSN et puis Facebook. Ça s'est créé où moi, j'ai commencé à aller dessus. Et j'ai toujours, tous les soirs, quand je rentrais, j'allais sur Facebook. Je parlais avec mes amis, je postais des photos, je commentais des choses. Et c'est l'année dernière où au début de mon année scolaire, c'était ma première année de fac, où je me suis rendu compte que j'y allais trop souvent, que j'étais trop au courant de tout, que j'attendais toujours quelque chose, c'était vraiment le matin, je me réveillais, j'allais sur l'application parce que je l'avais téléchargée.
Sur ton smartphone.
Je l'avais téléchargée, j'y allais vraiment tout le temps. Dès qu'il y avait quelque chose, j'avais une pastille qui s'appuie. Exact. Et donc j'étais au courant, c'était vraiment genre, c'était pire que les textos ou pire que je sais pas, c'était...
Ah, ça signifie que dès le réveil, ton réveil sonnait et ton premier réflexe, avant de te lever et d'aller te faire un thé, c'était de vérifier ton Facebook.
Je regardais si j'avais des textos, après genre j'allais sur Facebook, je regardais les actualités, je voyais s'il y avait des trucs intéressants ou pas, je fermais et j'allais prendre mon petit déjeuner, voilà.
Donc ça conditionnait ton humeur en fait hein.
C'est vrai, parce que c'est vrai que des fois, on voit des choses, on n'a pas forcément envie de les voir.
Avant quoi, par exemple ?
Des photos de gens, je sais pas, moi après c'est personnel, mais genre des fois, quand t'as des histoires avec des personnes, ou quand t'étais pas à un endroit, ou je sais pas, ça peut... Enfin, tu vois toute la vie des gens, et t'es au courant de toute la vie des gens, et il y a des choses, t'as pas forcément envie de les savoir, par rapport à des amis ou à des gens, même des connaissances.
Oui, c'est-à-dire que tu réalises à ce moment-là qu'il y avait une soirée à laquelle tu n'avais pas été invité.
Par exemple, des choses comme ça, ou même des affinités qui se créent entre des personnes, tu n'étais pas au courant, ou je ne sais pas. Enfin, tout et n'importe quoi. C'était lourd.
Et comment est-ce que tu as pris cette décision ? C'est venu d'un coup, un ras-le-bol soudain, ou est-ce que ça a été mûrement réfléchi plusieurs semaines en amont ?
Alors pas du tout, j'étais une fois, je crois que c'était le soir, j'étais chez moi, j'avais mon ordi et j'ai regardé mon actualité et j'ai fait, il y avait plusieurs raisons, c'est déjà parce que, je donne un exemple, mon ex, je l'avais pas sur Facebook mais je pouvais voir des choses de lui et des fois ça me faisait du mal, des fois je stressais de me dire ça se trouve je vais apprendre quelque chose alors que j'ai pas envie de le savoir et le fait que tout le monde traite leur information, enfin je sais pas comment expliquer mais genre, tu mets ce que tu as envie que les autres voient de toi, mais pas forcément ce que t'es vraiment. Et même moi, j'étais comme ça, c'est-à-dire ma photo de profil, je devais mettre une belle photo.
Mais c'est une vitrine.
Ouais, exact. Et c'est cette facette-là qui m'a mis complètement, ça m'a saoulée. Et j'ai fait sur un coup de tête, mes copines n'étaient pas au courant, personne n'était au courant. Je me suis déconnectée de Facebook un soir où j'étais chez moi tout seul. Et je me suis sentie soulagée. Ouais.
Et ça a duré combien de temps, soulagement ? 6 mois ?
Je me suis déconnectée. Des fois, j'étais au café avec mes copines et genre, je leur disais alors, parce qu'elles parlaient de Facebook. Elles me disaient, il a mis ça, non. Je faisais, j'étais contente d'avoir des nouvelles. Mais genre, je me suis sentie soulagée dans le sens où j'avais même plus l'envie d'y aller. C'était vraiment...
C'est-à-dire que c'est le côté fake, comme on dit, faux des gens ? Pas authentique, pas spontané, pas naturel, hein, qui t'a troublé hein.
C'est principalement ça. Je me disais que les gens, c'était pas
Triche.
Exact. C'était pas, c'est pas du vrai. Je sais pas comment. C'est du fake et genre, c'est ce côté-là principalement qui m'a saoulée. Ouais. C'est pour ça que je me suis déconnectée.
Et tes copines, hein, qu'est-ce qu'elles en ont pensé hein, quand tu leur as dit ça y est, je suis partie. Alors, je vis autrement maintenant.
Ouais. Au début, mes copines ne me croyaient pas.
Ah moi ?
Ah ouais, non, elle me dit tu vas te remettre demain parce que j'ai plein d'amis qui sur un coup de tête s'enlèvent mais se remettent le lendemain. Sauf que moi je leur ai dit que non parce que genre déjà ça manquait pas du tout au début. Et après c'est vrai que petit à petit genre 2-3 mois j'avais parce que moi je poste plein de photos des vacances parce que j'ai un appareil photo et donc plus personne n'avait leurs photos parce que si je m'enlève il y a toutes mes photos qui partent. Et donc tout le monde me disait allez remets-toi non et je prenais même des photos entre temps et je les mettais pas parce que j'avais plus de compte. Et donc, genre, c'est mes copines qui les mettaient sur leur compte pour quand même avoir des photos, nan. Et elles m'ont demandé, j'en ai une principalement qui me disait tous les jours, allez, remets-toi. Et j'ai tenu 6 mois.
Ouais. Malgré la pression, quand même. C'est ça. En fait, tu t'es sentie devenir dissidente. Hein. Tu étais une dissidente par rapport à tes copines.
J'étais, bah ouais. Genre, et en plus, j'ai des copines qui m'ont dit « je vais faire comme toi, je vais faire comme toi ». Mais bon, elles l'ont jamais fait. Et j'en ai encore une qui m'a dit ça. Elle est beaucoup moins là-dessus. Mais même elle, enfin moi, j'y suis tous les jours là en ce moment. Mais j'ai une amie.
Ah, parce que tu y retournais.
Oui, j'y suis retournée après 6 mois.
Et qu'est-ce qui s'est passé après 6 mois?
En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres côtés positifs quand même. C'est que je peux discuter avec plusieurs personnes en même temps. Et il y a des événements par rapport à la fac aussi. Il y a des gens qui postent des cours ou il y a des événements par rapport à la fac qui sont sur Facebook. Donc par rapport à ça, et genre tu gardes beaucoup plus contact avec des gens que tu connais moins, par exemple mes amis de fac. Genre j'avais leur Facebook avant, j'avais pas leur numéro, donc dès que j'ai plus Facebook, j'avais plus de contact avec eux. Et donc genre il y a eu plein de choses petit à petit qui m'ont donné envie d'y retourner, et donc je m'y suis remise, je crois 2 mois avant la fin de la fac de l'année dernière, donc en avril.
Donc, au moment où tu t'es reconnectée, tu t'es sentie comment?
Au début ça m'a... Enfin, là, pareil, ça m'a pas fait du bien, mais genre, j'étais contente. Genre, je reprenais tout, j'avais remis photos, c'était bizarre, c'est comme si j'étais jamais partie, parce que tout était intact, rien n'a bougé. Et après, je me suis re-enlevée pendant 2 mois, parce que pareil, ça a recommencé.
C'est-à-dire que très vite, hein, tu t'es remise le matin à vérifier les...
Ah oui, au début, je me suis dit, non, pas immédiatement, parce qu'au début, je me suis dit, re-télécharge pas l'application. Tu t'iras que quand tu seras chez toi, quand tu seras dehors, tu n'iras pas. Sauf que ça n'a pas marché du tout. Et que je me suis fait, c'est vrai que quand j'ai pas Facebook, je m'en soucie pas, je m'en fiche. Tout ce que les gens font, ça m'intéresse pas. Mais dès que je sais que je suis connectée, que je peux me connecter, j'ai envie d'y aller tout le temps. Mais vraiment.
Un reportage signé Sophie Bobert, Carlo Stringer. Que vous inspire le récit de Milena, cette jeune Parisienne longtemps accro aux réseaux sociaux?
C'est la nouvelle forme du cartésianisme. J'ai des likes, ergo j'existe. Non, c'est en partie ça fait des soucis parce que c'est vraiment, elle parle le langage de l'addiction. Quand on a écouté, j'ai dit à Jean Salem que souvent dans des grandes classes à la fac, je me balade parfois et puis je vois les ordinateurs de derrière, je vois qu'ils sont en Facebook. Alors de temps en temps, je lui dis c'est beaucoup plus intéressant que le cours, non? Et je pense que c'est un excès de notre désir, de notre besoin que nous avons tous, d'être reconnus dans notre existence et notre valeur par les autres. Mais je pense que, nouveau, c'est cette quantification et le besoin de se comparer constamment est arrivé à un point où je pense que ça fait beaucoup plus de mal que du plaisir.
Carlo Stringer, revenons à votre puissante critique du culte de la liberté illimitée, un mythe soutenu par certaines spiritualités en toc qui nous explique que grâce à notre volonté, nous pourrons accéder à notre vrai moi, ce vrai moi emprisonné dans une sorte de cocon, ce vrai moi qui réalisera un jour enfin ses potentialités infinies. Cette idéologie de la liberté illimitée semble à vos yeux fallacieuse. elle nous ment car elle semble oublier que notre existence s'arrête un jour, hélas.
Je pense que dans ce cas-là, c'est oisif. Pour les grandes traditions philosophiques et spirituelles ont toujours parlé de la formation du moi comme un processus qui prend toute une vie et qui demande beaucoup de discipline. Maintenant, nous sommes arrivés à un point où les gens souffrent souvent vraiment d'un mal assez profond et ils veulent que ça disparaisse vite. Et puis, ce qui est incroyable, c'est cette industrie qui s'est développée de tous ces livres, vidéos, CD qui disent « voilà, 7 pas, en 2 semaines, tu seras beau, riche, calme, tu auras du succès et tout le monde va t'aimer ». Maintenant, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Et je ne parle pas du fait qu'il y a aujourd'hui des problèmes spécifiques comme des phobies que, très heureusement, nous pouvons traiter beaucoup plus vite qu'avant, avec une combinaison entre la thérapie cognitive
comportementale
et parfois aussi les médicaments antidépressifs. Mais les grands problèmes de notre existence ne sont pas, premièrement, c'est pas une maladie. Deuxièmement, ça va pas disparaître, mais certainement pas en deux semaines. C'est un phénomène qui non seulement n'aide pas, mais qui agrandit le malheur.
Alors, le romantisme, depuis Rousseau, nous a métamorphosés en artistes, en auteurs de notre vie. Mais pour nous autres mortels, il est impossible de choisir le matériau de notre vie. Notre individualité bute sur l'obligation de vivre sous des contraintes que nous n'avons pas choisies. Nous n'avons choisi aucun des paramètres originels qui ont conduit notre venue au monde. Et notre vie est constamment en tension entre liberté et impossibilité de choisir les paramètres fondamentaux de notre vie. Nul ne peut échapper, et vous le rappelez dans votre ouvrage, à ce que Milan Kundera appelle son équation existentielle.
C'est là où vraiment je prends beaucoup de repères à la tradition de la pensée existentialiste. Je pense que, disons, quand Nietzsche dit que donner du style à ton caractère, c'est de reconnaître objectivement qui tu es, c'est-à-dire d'être capable de différencier entre le fantasme qui tu as produit toi-même ou que tu prends du supermarché culturel des fantasmes du succès, de faire la différence entre ça et de nous voir comme que nous sommes vraiment, c'est là le processus où nous pouvons devenir nous-mêmes. Et c'est un processus qui est pas facile. Il prend toute une vie et nous changeons pendant la vie. Je pense à propos, avec l'âge, ça devient un peu plus facile, entre autres parce que nous avons plus de vie et nous nous connaissons mieux. À l'âge de 17, nous ne savions encore pas trop sur qu'est-ce qui est une vraie possibilité et quel est notre fantasme de ce que nous voulons être. Et ce processus que j'ai nommé l'acceptation active de soi-même, c'est un processus qui prend du temps, qui est constant. C'est pas différent de la fitness physique, c'est quelque chose qu'on travaille tout le temps.
Nous devons prendre conscience de ce dont nous ne sommes pas capables.
Mais je voudrais, ce qui est important ici, que ce message, il n'est pas simplement négatif. Je pense que ça, si je comprends qui je suis, je ne peux pas choisir les matériaux de base desquels je suis formé.
Vous prenez par exemple l'exemple du psychiatre existentialiste Carl Jaspers.
Oui, qui, dans ce cas-là, à un âge très jeune, de 18 ou 20 ans, il a découvert qu'il avait une maladie de poumon qui était incurable. Et son docteur lui a dit, écoute, il faut que tu mènes une vie assez limitée, que tu ne fasses pas trop d'efforts, etc. À la fin, il a vécu jusqu'à l'âge de 86 ans. Il a écrit, je pense, 35 bouquins. Et sa contribution est incroyable. Et là, ce qui m'est important, c'est de dire, c'est de reconnaître nos limites, c'est aussi de reconnaître qui nous sommes. C'est-à-dire, il y a aussi ici la possibilité d'une joie de dire, c'est ma vie à moi que je mène. C'est pas qu'il faut que je me forme d'après un modèle extérieur qui est évalué à ce moment-là par la culture dans laquelle je vis, mais ce sont mes possibilités tout à fait spécifiques et individuelles, c'est-à-dire la conscience des limites et la joie de se connaître et de se vivre peuvent se combiner.
Du côté de chez soi, Ali Rebbi. Familiarise-toi avec l'idée que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or, la mort est la privation complète de cette dernière. Cette connaissance certaine que la mort n'est rien pour nous a pour conséquence que nous apprécions mieux les joies que nous offre la vie éphémère, parce qu'elle n'y ajoute pas une durée illimitée, mais nous ôte, au contraire, le désir d'immortalité. En effet, il n'y a plus d'effroi dans la vie pour celui qui a réellement compris que la mort n'a rien d'effrayant. Il faut ainsi considérer comme un sot celui qui dit que nous craignons la mort, non pas parce qu'elle nous afflige quand elle arrive, mais parce que nous souffrons déjà à l'idée qu'elle arrivera un jour. Car si une chose ne nous cause aucun trouble par sa présence, l'inquiétude qui est attachée à son attente est sans fondement.
Un extrait de la lettre à Ménécée d'Épicure. Carlo Stringer, dans votre ouvrage, il y a un chapitre qui s'intitule « Ramener sa vie à l'essentiel », une proposition épicurienne. Et c'est pour cela que j'ai eu envie d'inviter le philosophe Jean Salem, qui publie en poche, chez Champ Essai, « Les atomistes de l'Antiquité, Démocrite, Épicure, Lucrèce ». La philosophie d'Épicure serait une thérapeutique, un remède aux maux que nous raconte Carlo Stringer dans son ouvrage « La peur de l'insignifiance » nous rend fous.
Je ne donnerai pas la posologie ni des ordonnances, mais il est certain que dans ce qui apparaît, dit Marx, dans sa thèse consacrée à Démocrite et Épicure, comme une sorte de queue de la comète, d'affaissement de la philosophie grecque, après les grands, les immenses, Platon et Aristote, dans la philosophie stoïcienne et la philosophie épicurienne, à l'époque hellénistique, époque ô combien de crise, l'empire mondial mais éphémère d'Alexandre vient de s'écrouler. C'est une sorte de catastroïka puissance 4. Dans cette époque-là, disons 3e siècle avant Jésus-Christ, les années 320 et suivantes, fin du 4e et 3e et 2e, la philosophie se propose d'être un fébrifuge, de chasser la fièvre, un antalgique, un antidouleur, un analgésique. Et la première thérapie, effectivement, à appliquer à l'homme malade, c'est de lui insuffler une série de techniques d'accoutumance à l'inévitable, pas de consolation, de demande de prise en compte rationnelle de ce que la tripe fait que nous sommes envahis par le frisson en pensant que notre corps va être décomposé, lacéré par les bêtes fauves, par les oiseaux de proie. Mais la raison peut dominer la tripe. Je prends un simple exemple pour ne pas rester dans des incantations. Lucrèce, qui 150 ans après Épicure, se donne pour tâche uniquement de traduire en vers latin la philosophie d'Épicure, donc qui dit la même chose dans un poème sublime de la nature, des choses. Lucrèce nous dit: tu fais travailler ton imagination. Tu es d'une certaine façon de mauvaise foi, pour reprendre un terme sartrien. Lorsque tu frissonnes en voyant ton corps déchiqueté par les fauves, tu fais comme si, tu te projettes une sorte de film, tu fais comme si dans la mort il y avait un dédoublement. Ton cadavre étendu et inconscient, bien sûr, puisque tout est fait d'atomes et tes atomes sont déjà en train de se désagréger. Et la pensée est en train de partir, elle est même déjà partie, la sensibilité aussi, et tu imagines un double, un numéro 2, qui est toi-même pleurnichant sur ce cadavre étendu. Mais dans la véritable mort, il n'y aura rien. Puis vous avez un défilé, le catalogue des illustres défunts, Démocrite, celui qui est le premier à avoir dit que tout est fait d'atomes et de vide, avant Épicure lui-même. Les grands généraux, Xerxès, le roi de Perse, enfin tout le monde est mort. Donc toi aussi tu mourras. Deuxième argument, je passe sur les autres, il y en a comme ça toute une batterie. Et ils ont encore une fois pour fonction de nous libérer d'une terreur qui en amène certains à se suicider, tellement ils ont la terreur de la mort, dit Lucrèce, pour se débarrasser de ce poids, de cette oppression. Et à partir de là seulement, on peut commencer avec d'autres prises en considération, notamment la prise en considération de nos limites, d'essayer d'être heureux, parce qu'on ne vit qu'une fois, donc autant essayer d'être heureux dans ce bref laps de temps qui nous est imparti, comme diraient les célébrités médiatiques, dont on aura oublié le nom dans 5 ans.
On ne vit qu'une fois. Pour vous, il y a des gens qui pensent qu'il y a une vie après la mort, ou bien qu'on se régénère à travers des réincarnations. Hein.
Bon. Bien sûr, mais tout n'est pas prévu dans Lucrèce Épicure, mais Lucrèce vous dit, vous êtes fait d'atomes, vous vous recomposerez peut-être une infinité de fois dans l'infinité du temps qui suit, mais de toute façon, il y aura eu interruption de conscience, et vous n'aurez même pas droit à une sorte d'immortalité stroboscopique, alternance ombre-lumière. C'est-à-dire que vous ne saurez pas que vous êtes déjà passé. Bref, d'après les matérialistes parmi lesquels je suis, il n'y a plus rien après.
Carlo Strenger, la philosophie d'Épicure nous permet de ramener notre existence à l'essentiel. L'épicurisme permet de régénérer nos existences en milieu de vie. Racontez-nous, par exemple, très vite, l'exemple de Charles Handy.
Oui, Charles Handy, il était un type très très intéressant qui a décidé. Il a grandi dans une famille assez pauvre et il avait décidé que ce qui importait, c'était la richesse. Il est devenu manager assez avec pas mal de succès à Shell, qui est maintenant fusionné à Exxon. Et c'est après la mort de son père qu'il a commencé à réaliser qu'il vivait une vie qui n'était pas la sienne. Il raconte de façon très émouvante qu'il est, un jour il a reçu le téléphone que son père était mort, et puis il est arrivé au petit village en Irlande, et il voyait des centaines et des centaines de gens qui sont venus à l'enterrement, bien qu'il n'y a...
Il était prêtre, c'est ça?
Oui, il était prêtre. Ah, oui, exactement. Et puis il s'est demandé... Mais il n'y avait pas les social media, on n'avait pas fait de la publicité qu'il était mort. Et puis il a réalisé que son père, pour lequel il avait toujours eu un certain dédain, a peut-être vécu une vie qui a eu beaucoup de réalité humaine. Et Charles Handy a fait un grand changement. Il est devenu surtout écrivain. Il a écrit quelques bouquins très importants qui, entre autres, justement, ont comme sujet comment vivre une vie dans laquelle nous faisons ce qu'Épicure nous dit de faire, c'est de demander quels de nos désirs sont vraiment essentiels et quels sont pas nécessaires. Et par exemple, un dit au commencement, c'était pas facile. Il vivait avec moins d'argent. Il vivait avec. En une fois, il n'était plus inondé des téléphones. Et lentement, lentement, vraiment, il a trouvé un autre mode de vie qui, pour lui, était beaucoup plus satisfaisant.
Jean Salem, pour conclure.
Que dire sinon qu'en période de capitalisme globalisé, certaines personnes appliquent cette idée que tous nous traversent. On ne peut pas faire, me disait un vice-recteur, en Russie, mais oui, en Russie ex-soviétique, on ne peut pas faire une société avec seulement des étudiants en droit, sous-entendu des affaires, et en, c'est le mot russe, business. Plus personne n'étudie les sciences ni les humanités, mais l'humour, l'amour, la musique et mille choses qui font que la vie a du goût et du sel ne sont pas marchandisables et nous sont essentielles pourtant.
Carlo Strenger, peut-être un mot aussi de conclusion.
Je voudrais retourner à ce que j'ai dit au commencement. Je ne pense pas qu'il soit possible de nous libérer de toutes ces forces et de nous regarder de dehors et d'arriver à une sagesse contemplative absolue. Mais je pense que Foucault a une fois dit que ce que la philosophie doit faire, c'est lui donner le sentiment que nous sommes un tout petit peu plus libres qu'on l'est. Je pense que si on y arrive à ça, c'est déjà pas mal.
Merci beaucoup, Carlo Strenger, philosophe, professeur de psychologie à l'Université de Tel Aviv. Je recommande vivement votre essai passionnant « La peur de l'insignifiance nous rend fous », publié chez Belfond. Merci également, Jean Salem. Vous êtes philosophe à l'Université Panthéon-Sorbonne et on peut lire en poche chez Champs Essais « Les atomistes de l'Antiquité », Démocrite, Épicure, Lucrèce, et je conseille également en poche votre ouvrage, Le bonheur ou l'art d'être heureux, par gros temps. Merci d'être venu.
Merci.
La petite bibliothèque du côté de chez soi.
Rebonjour Cécile Guéret.
Bonjour.
Journaliste à Psychologie Magazine, chaque semaine, vous choisissez un ouvrage pour notre petite bibliothèque. Qu'avez-vous choisi cette semaine ?
Cette semaine, j'ai choisi La puissance de la douceur. C'est un livre d'Anne Dufourmentel qui est publié dans la collection Manuel chez Payot. Et Anne Dufourmentel est psychanalyste et philosophe. Alors pour tout vous dire, j'ai une petite réserve sur le style pour commencer parce que je m'étais régalée de l'écriture d'Anne Dufourmentel dans son précédent ouvrage, En cas d'amour, qui avait été publié en 2012.
Et là,
c'est vrai que j'ai moins retrouvé ce style très élégant qui m'avait tellement plu. En revanche, le thème, la puissance de la douceur, m'a très vite passionnée. Parce que c'est vrai qu'on peut très vite être rattrapé par notre cynisme et se dire que c'est un thème un petit peu mièvre ou un petit peu simplet.
Et pas du tout.
Et pas du tout, en effet. En fait, ce qu'elle nous explique, c'est que c'est un thème qui est beaucoup plus impliquant que ce qu'on pourrait penser. Alors, nous savons depuis les travaux du psychanalyste et psychiatre anglais John Bowlby que la douceur est nécessaire aux petits enfants, aux nourrissons. Elle est plus que nécessaire, même c'est une question de survie. C'est ces travaux sur l'attachement qui nous ont démontré cela. Alors après, bien sûr, on grandit. Petit à petit, on apprend l'indépendance, on apprend à être autonome dans un monde qui, lui, pour le coup, n'est pas très doux ni très tendre. Pour autant, la douceur n'est pas superflue. Elle n'est pas superflue, bien sûr, pour les personnes à qui nous la prodiguons, mais aussi pour nous. Alors, en fait, ce que nous explique Anne Dufourmentel, c'est que la douceur nous nourrit. Comme la caresse, la douceur, c'est un double mouvement. C'est à la fois un mouvement de don, je donne de la douceur, mais en même temps, en faisant cela, je me nourris de cette douceur. C'est aussi un mouvement d'accueil. Donc, nous y gagnons à être doux avec les autres. La douceur nous nourrit.
Mais elle nous expose aussi.
Elle nous expose, en effet, à deux risques principaux. Le premier, c'est que faire preuve de douceur, c'est faire preuve d'empathie. Alors pourquoi c'est un risque ? C'est un risque parce que en prenant en compte la vulnérabilité de l'autre, celle dont je prends soin, en étant doux avec lui, nécessairement, par effet miroir, dans ce même mouvement, je reconnais aussi ma vulnérabilité, ma propre fragilité, et donc ça m'expose. Ça m'expose aussi à l'autre parce que c'est par cette ouverture, par la douceur, d'une certaine façon, je m'ouvre, je lui donne un certain pouvoir et donc je me place, moi, dans une relative impuissance. Comme cet autre est différent de moi, que je ne peux pas prévoir ses réactions, je ne sais pas s'il va accepter la douceur ou si au contraire il va la rejeter, je m'expose à cet inconnu, à l'inconnu de sa réaction. En fait, la douceur nous expose à ce que le psychologue et gestalt-thérapeute québécois Gilles Delisle a appelé le dilemme du contact. Alors j'aime beaucoup cette notion, parce que ce qu'il explique lui, c'est qu'il y a dans le lien à la fois de l'indispensable et de l'insupportable. De l'indispensable parce que nous avons besoin de cette douceur, nous en avons besoin parce qu'elle nous nourrit, et de l'insupportable parce que justement elle ravive ce lien de dépendance que nous avons connu dans nos premiers attachements et que pour ceux qui en ont manqué, ça peut raviver aussi une blessure, une douleur, voire rendre la douceur totalement inassimilable. Donc on comprend que la douceur n'est ni évidente ni anodine, mais surtout, et c'est toute sa grandeur, en fait c'est une qualité de présence qui nous engage, qui nous demande de nous investir totalement dans la relation à l'autre. Et là, il y a des très très belles pages de Martin Buber sur justement ce qu'est la relation véritable et comment elle nous engage avec l'autre, comment dans cette relation, chacun des partenaires est à la fois reconnu par l'autre et en même temps se dévoile. Alors ça peut être vécu comme un danger, parce que pour cette prise de risque que nous avons vue, mais aussi comme une promesse. Parce que finalement, chaque geste doux, c'est ce qui fait que chaque geste doux est un moment unique et bouleversant. La douceur est donc une éthique, c'est celle d'élever la relation au niveau d'une valeur à déployer et à réaliser toujours plus. D'une certaine façon, c'est donner le meilleur de soi à l'autre parce que je sais qu'il va en reconnaître la valeur. Mais c'est aussi, nous dit Anne Dufourmentel, la douceur est politique. Parce qu'en fait, elle concerne notre façon d'être ensemble. Et c'est en effet particulièrement nécessaire aujourd'hui, alors que nous sommes tous assaillis par ces exigences d'efficacité, de rentabilité et de réussite qui ne nous incitent pas toujours à la douceur, ni envers nous, ni envers les autres.
Rappelez-nous le titre, Cécile Guéret, de l'ouvrage d'Anne Dufourmentel.
Oui, il s'appelle « La puissance de la douceur » et c'est chez Manuel Payot.
Merci beaucoup Cécile Guéret, on vous retrouve dimanche prochain pour cette petite bibliothèque de Du Côté de Chez Soi. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission ainsi que celle que nous avons consacrée au burn-out ou à la méditation de pleine conscience sur franceculture.fr à la page Du Côté de Chez Soi. La semaine prochaine, nous nous demanderons si Proust peut nous aider à être heureux en compagnie de Michel Schneider et Vincent Colonna. Du Côté de Chez Soi a été produit par Ali Rebéi, réalisé par Peyré Legras, préparé et organisé par Sylvia Fabre, avec l'aide de notre stagiaire Arthur Fournier, à la technique ce dimanche, Claire Levasseur. We'll be right back.